vais sans tarder donner la parole à Sophie Pessis pour commencer les présentations. Merci.
Merci beaucoup, cher. Je ne savais pas que je devais commencer, parce que je pense que par rapport à cette présentation tout à fait construite, mais peut-être un peu irénique de cher, je vais essentiellement m'attarder sur la question des rapports entre la religion et la politique. Parce que peut-être dans l'intitulé de cette table ronde, éthique, religion et changement social, il y a un mot absolument central qui a traversé toute l'histoire des religions et qui est la question du politique. En effet, on ne peut pas parler de religion ni d'un point de vue historique, ni à l'époque contemporaine a fortiori, sans analyser les places successives que les religions ont occupées dans l'espace politique, historiquement dans le champ politique, et sans constater, il ne s'agit pas là d'une analyse, mais d'un premier constat, que l'histoire des religions est en très grande partie l'histoire de leur rapport avec le pouvoir et avec les pouvoirs. Donc, on ne peut... l'éthique, en fait, bien entendu, mais c'est un autre problème de l'étude du champ religieux. Pourquoi l'histoire des religions est en grande partie l'histoire de leur rapport au pouvoir? Parce que, quelle que soit la religion, et je dirais presque qu'il s'agit là d'une logique, puisque toute religion prétend détenir la vérité. Elle prétend détenir le monopole de la vérité, et pas seulement la vérité. À partir du moment où toute religion prétend détenir le monopole de la vérité, donc toute religion prétend dire la norme et imposer l'hégémonie de sa norme comme critère de régulation du champ social et politique. C'est la raison pour laquelle l'alliance entre la religion et le pouvoir est une constante de l'histoire des religions. Alors, dans le cas des trois religions monothéistes, puisque Cher faisait allusion à ces trois religions monothéistes, quelle est la spécificité de ces trois religions par rapport aux autres, disons, que l'on... C'est que elles sont d'autant plus productrices de normes qu'elles prétendent être le produit d'une révélation divine directe, donc par définition indiscutable. Évidemment, à partir du moment où il s'agit d'une révélation divine directe, elle n'est pas susceptible d'être discutée. Donc à ce moment-là, évidemment, il s'agit d'autant plus d'une norme hégémonique, et on pourrait même aller jusqu'à dire, pendant certaines périodes de l'histoire des trois religions abrahamiques, d'une norme de caractère totalitaire. Donc, voilà, me semble-t-il, les prolégomènes qu'il faut identifier pour essayer de comprendre quelle est la relation tout à fait intrinsèque, tout à fait organique avec la politique, entre la religion, la politique et le pouvoir. Mais alors, quelle norme? Si la religion est productrice de normes, si la religion est productrice de l'hégémonie de la norme, quelle norme? En fonction de quelle hiérarchie sociale, de quelle hiérarchie sexuelle, de quelle hiérarchie communautaire, bien entendu, de quelle hiérarchie politique et de rapport au pouvoir. Bien entendu, ce serait un truisme que de dire il n'y a pas de système religieux sans hiérarchie, il n'y a pas de système tout court sans hiérarchie. Tout système est producteur de hiérarchie. Mais il n'y a pas de système religieux, quel qu'il soit, sans hiérarchie de type discriminant. Le croyant et le non-croyant. L'appartenant à la religion dominante et l'appartenant à la religion minoritaire. L'homme et la femme. Donc, l'appareil normatif d'une religion dominante est un appareil normatif de type discriminant de façon générale. Donc, je disais, hiérarchisation d'autant plus discriminante que tous les textes sacrés sont bien entendu, c'est leur principe même, sujet à une pluralité d'interprétation, bien entendu. Mais dans le champ du politique et dans le champ du pouvoir, les textes sacrés, quels qu'ils soient, dans l'interprétation des textes sacrés, quels qu'ils soient, a été une interprétation dans le sens du conservatisme social et sociétal. On a très rarement vu des interprétations. Les interprétations, je vais mettre entre guillemets progressistes, sont des interprétations de type contestataire, en général, voire la théologie de la libération dans le champ de l'Église catholique par exemple. En revanche, la société est en général livrée à l'interprétation la plus conservatrice de la religion qui structure le champ sociétal. On pourra le voir tout à l'heure en prenant un certain nombre d'exemples, puisque je m'attarderai sur deux exemples essentiellement. Alors, je crois que cette entrée en matière me paraît d'autant plus importante que depuis la fin des années 70 environ, on assiste à un renouveau extrêmement puissant de la place du religieux dans le champ politique. En effet, ce qu'on peut dire, c'est que la première moitié des années du XXe siècle, disons jusqu'aux années 60, les 60 premières années du XXe siècle, ont été les 60 premières années des grands messianismes séculiers, si je puis dire, des eschatologies séculières, dont évidemment le marxisme est la plus importante, la plus structurante. Et la faillite de ces messianismes séculiers, de ces messianismes révolutionnaires, a relaissé le champ libre au discours religieux et au réinvestissement par le religieux du champ politique. Un renouveau très puissant en pays d'islam, énormément, à partir essentiellement de la révolution islamique de 1979 en Iran, bien entendu, qui a réactivé le discours de l'islam politique. Et puis après, on a eu une concurrence à partir de la fin des années 70 entre discours politique de l'islam sunnite et discours politique de l'islam chiite, bien évidemment, à partir de la révolution islamique de 1979 en Iran. Mais si le réinvestissement du champ politique par le religieux en pays d'islam est extrêmement important, ce n'est pas le seul. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, les Amériques, que ce soit les États-Unis ou les pays d'Amérique dite latine, eh bien, le réinvestissement du champ religieux, aussi bien par l'Église catholique que par les mouvements fondamentalistes protestants, est également, évidemment, très important. On l'a vu on le voit aux États-Unis, bien évidemment, le lieu tout à fait privilégié du développement des discours fondamentalistes protestants. Mais on a pu le voir même dans la dernière campagne électorale au Brésil, où vous avez eu par exemple une offensive extrêmement importante, ce qui est extraordinaire, et l'on voit là le caractère normatif de la religion, c'est que le deuxième tour des élections présidentielles au Brésil pour l'élection de Dilma Rousseff s'est fait autour de la question de l'avortement. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil se fait autour de la question fondamentale: faut-il ou ne faut-il pas légiférer sur le corps des femmes? Voilà. Ce qui donne la mesure de l'importance de la prétention normative du religieux sur le champ social et politique. Donc, alors, moi, la question qui me paraît essentielle à poser, je ne vais pas vous faire des développements savants sur ce que je viens de dire, d'autant que, un, je n'aurai pas le temps, et deux, beaucoup de gens l'ont fait de façon extrêmement pertinente. Mais la question que je souhaite poser, c'est ce réinvestissement du champ social, du champ politique par le religieux, depuis, disons, en gros, une trentaine d'années, un tiers du siècle, est-il compatible avec la démocratie, la citoyenneté, l'égalité? Historiquement, je n'ai aucune prétention de captation sur l'avenir ou sur le futur. En tant qu'historienne, j'essaye simplement d'essayer de repérer dans l'histoire des possibilités d'analyse. Historiquement, il n'y a jamais eu de compatibilité entre égalité, citoyenneté et hégémonie du religieux dans le champ politique. Deux exemples, donc je vais m'attarder dans les quelques 10 minutes qui me restent peut-être sur deux exemples très rapidement, sur le phénomène de la religion d'État et le phénomène de l'égalité des sexes. Bon. Peut-il y avoir citoyenneté dans des pays où une religion est la religion de l'État? Je prends l'exemple de l'islam, puisque dans la totalité des pays arabes, non pas dans la totalité des pays musulmans, mais dans la totalité des pays arabes, puisque le Sénégal ou la Turquie sont des pays musulmans non arabes, où la religion islamique n'est pas la religion de l'État, n'est-ce pas? En revanche, dans la totalité des pays arabes, l'islam est religion d'État. C'est-à-dire que, par exemple, le chef de l'État, sauf au Liban, qui est une démocratie confessionnelle, donc on va laisser tomber le cas du Liban, mais, ou par exemple, le chef de l'État doit être musulman. C'est une obligation. Un tel État peut-il être égalitaire pour la totalité de ses citoyens? Un État qui n'est pas neutre vis-à-vis de toutes les religions, et non pas d'une seule, bien entendu, peut-il être égalitaire pour la totalité de ses citoyens? On connaît, dans les États où une religion est religion d'État, on connaît les discriminations en droit ou en fait dont sont victimes une minorité religieuse, par exemple. Donc, quid du statut du non-musulman dans un État où l'islam est religion d'État? Par exemple, est-ce que c'est le statut traditionnel de ce qu'on appelle de la dhimma en langue arabe, qui est codifié par le Coran? Mais alors, si on a le statut traditionnel de la dhimma codifié par le Coran, comment peut-on parler de citoyenneté, par exemple? Bon, puisqu'il s'agit d'un statut infériorisant. Bon, vous me direz, dans les pays où il y a une religion qui est religion d'État, il n'y a pas de citoyenneté réelle. Qu'elle soit majoritaire ou minoritaire, la citoyenneté réelle n'existe pas. Mais c'est une vraie question. Donc peut-il y avoir coexistence entre citoyenneté et hégémonie de la norme religieuse en matière d'égalité entre tous les croyants des confessions différentes et d'ailleurs en matière de reconnaissance de la non-croyance? Bon, qui est également quelque chose d'extrêmement important. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, la question des femmes. Là encore, toutes les religions sont fondées sur une très stricte hiérarchie sexuelle. Extrêmement stricte hiérarchie sexuelle. Il n'y a pas, à ma connaissance, j'espère me tromper, mais à ma connaissance, pour ce que j'en connais, il n'y a aucune religion qui prône l'égalité juridique des sexes, l'égalité en droit. Bien évidemment, si on prend l'islam, elle prône l'égalité de tous les croyants en matière de foi, certes, mais pas l'égalité juridique des sexes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Chaque croyant, homme ou femme, est égal devant Dieu, mais devant le tribunal des hommes, il n'est pas égal. Donc, là aussi, il y a une rupture entre la notion de croyant et la notion de citoyen, d'une part. Par ailleurs, il n'existe aucun État où le droit familial, le droit de la famille est fondé sur le religieux, qui soit égalitaire en matière sexuelle. Bon. Les interprétations dominantes de l'islam en sont la caricature. Je ne vais pas reprendre, parce que je crois que peut-être ça sera repris dans le débat, bien sûr, que ce soit la question de la polygamie, que ce soit la question de l'égalité devant le divorce, que ce soit dans un certain nombre de rites sunnites comme le rite malékite par exemple, enfin les trois rites à part le rite hanéfite, la question du tuteur matrimonial, c'est-à-dire de l'incapacité juridique de la femme à choisir son époux, que ce soit la question de l'héritage, bien évidemment, qui est une question tout à fait centrale aujourd'hui, puisque l'inégalité devant l'héritage est une inégalité absolue et totale. Donc voilà. Donc, il n'y a pas d'État gouverné par le religieux qui soit un État où l'on puisse reconnaître l'égalité juridique des sexes. Or, s'il n'y a pas d'égalité des sexes, il n'y a pas d'égalité tout court dans une société, bien évidemment. Elle n'existe pas. Donc, la question que je poserai, c'est peut-il y avoir, et c'est une question absolument centrale, parce que Cher disait, prononcer ce mot tout à fait important de développement. On sait aujourd'hui que l'inégalité sexuelle est un obstacle absolument fondamental au développement. Fondamental. L'inégalité juridique des sexes. Je vous donne un exemple. On sait par exemple que sur le continent africain, donc vous voyez que je vais bien au-delà de l'islam, les femmes produisent entre 60 et 80% de la production vivrière, à peu près. Ça dépend des pays, entre 60 et 80%. Et elles sont propriétaires de 1% du foncier sur ce continent. Par exemple, cette situation est-elle tenable en matière de développement? Et il y a encore des pays où les... Parce que beaucoup de pays africains sont extrêmement hypocrites. Hypocrites pourquoi? Parce que vous avez trois types de lois en matière de législation de la famille. La loi de l'État, qui est souvent une loi moderne, égalitaire jamais, mais qui peut s'en rapprocher. Mais cette loi moderne, séculière on va dire, n'a jamais interdit l'application de la loi religieuse ou de la loi coutumière. Bon, c'est-à-dire que vous avez coexistence de plusieurs ordres juridiques. Or, la première condition de l'égalité et de la citoyenneté, c'est la même loi pour tous et toutes. Il ne peut pas y avoir d'égalité, de citoyenneté, de démocratie, si la loi n'est pas la même pour tous et toutes. Or, à ma connaissance, il n'y a aucun État africain, à part la Tunisie, je m'en excuse, ce n'est pas par chauvinisme, mais où la loi n'est pas la même pour tous et toutes. Même en Afrique du Sud, dont les lois civiles sont égalitaires, non, la Tunisie, excusez-moi, le Cap-Vert. Mais même en Afrique du Sud, où les lois civiles sont égalitaires, les codes coutumiers sont légitimes. Et vous avez donc un président de la République qui a 5 épouses, par exemple, en Afrique du Sud, de façon parfaitement légale, alors que la loi civile sud-africaine est la loi familiale civile sud-africaine est une loi qui interdit la polygamie. Donc voilà. Donc vous voyez la schizophrénie ou l'hypocrisie, prenons le mot qui conviendra le plus aux uns ou aux autres. Donc voilà, je voulais terminer par cela. Peut-on aspirer et combattre pour la démocratie si l'on ne combat pas en même temps pour la citoyenneté pleine et entière pour tous? Non, attendez, je termine. Pour l'égalité et donc pour la séparation des sphères de la religion et de la politique. Cela ne veut pas dire la disparition de l'importance du religieux. Parce que, et je terminerai par là, la laïcité est souvent un concept extrêmement mal compris. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions. C'est ni plus, ni moins. Elle n'est pas synonyme d'athéisme, elle n'a rien à voir avec la foi, elle a à voir avec l'appareil normatif de la religion. Et ça, je crois que c'est très important. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel type d'occupation du champ social par le religieux qui ne soit pas un obstacle à l'égalité et à la citoyenneté. Je ne dis pas disparition du religieux du champ social, mais quel type d'occupation du champ social. Et je m'aperçois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je m'arrête.
Merci beaucoup Sophie. Je pense que peu de gens vont être je comptais donner la parole en premier après cette prise de parole. Beaucoup de prêts à penser ont été mis à mal à partir de ta présentation. Et je pense qu'on pouvait commencer par ça.